Nous allons donc continuer de lire. Si vous savez compter, si vous êtes aventuré à la fin du livre d'Osée, vous savez qu'il nous reste encore quelques chapitres à étudier. Ce qui veut dire que nous allons en étudier encore quelques-uns par matinée. On va étudier à peu près trois chapitres ce matin et on va encore étudier trois chapitres demain. Donc ça va être un petit peu dense. Mais je suis obligé de suivre la structure du livre. Donc là, c'est une structure un petit peu particulière avec ces trois chapitres, chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, enfin 9, verset 10 jusqu'au chapitre 11, où au début de chaque section, en tout cas au verset 10 et après au début des chapitres suivants, Israël est comparé à quelque chose. Voilà. Où c'est une sorte de flashback. Sur, on va dire, un passé heureux entre l'Éternel et Israël. Un passé heureux, mais un présent douloureux et un futur pas top du tout. Lisons le chapitre 9 à partir du verset 10 et. Bon, il y a le premier verset qui s'affiche, et après ce sera sous forme de tableau, parce que pour le chapitre 9 et le chapitre 11, on va fonctionner en diptyque. Diptyque, merci. C'est-à-dire que sur la colonne gauche, il va y avoir une partie du chapitre, et la suite sur la colonne de droite, et vous allez voir que normalement la colonne de gauche et la colonne de droite se répondent. Oh! Et voilà. Et donc là, au chapitre 9, normalement, c'est un diptyque que j'ai trouvé. Donc en fait, il est moins sûr que les autres. Au chapitre 11, il est vraiment sûr. Hein. C'est à chaque fois, je pique les éléments de structure à un prof de théologie d'Ancien Testament qui s'appelle Mathieu Richel, qui est absolument merveilleux. Et donc, bon, le prochain diptyque est un peu moins sûr, sachez-le. Donc voilà, lisons chapitre 9 à partir du verset 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme des figues précoces, comme les prémices d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont voués à la honte et ils sont devenus des horreurs comme l'objet de leur amour. Éphraïm. Sa gloire s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leur fils, je les leur tuerai avant qu'ils ne soient des hommes. Vraiment, quel malheur pour eux quand je m'éloignerai d'eux. Éphraïm, quand je l'ai vu, était comme une palmeraie plantée dans une oasis. Mais Éphraïm devra faire sortir ses enfants vers le tueur. Donne-leur, Seigneur. Que leur donneras-tu? Donne-leur un ventre qui avorte et des seins desséchés. Tout leur mal se montre au Gilgal. C'est là que je les ai détestés. À cause de leurs agissements mauvais, je les chasserai de ma maison. Je ne continuerai pas à les aimer. Tous leurs princes sont des rebelles. Éphraïm est abattu, sa racine est desséchée. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, je ferai mourir le fruit chéri du ventre maternel. Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Ils seront des fuyards parmi les nations. Petit passage joyeux et léger, qui parle beaucoup alors, puisqu'on parle de ventre qui avorte et tout ça. Oui, c'est un truc, voilà, c'est quand même un truc qui est absolument terrifiant pour une femme enceinte. Je le dis pour toutes les étudiantes ici qui n'ont jamais été enceintes. Enfin, bon, bref. C'est un truc vraiment terrifiant de se dire que voilà, on pourra pas avoir d'enfants, ou les enfants qu'on a eus vont mourir, ou que l'enfant qu'on est en train de concevoir pourrait être mort-né finalement. On voit avec ce tableau les différentes parties qui se répondent. Et donc là, dans la première ligne du tableau, on voit deux éléments d'histoire. L'histoire de Baal Péor et l'histoire de Gilgal, qui sont un peu les souvenirs du péché d'Israël. Dieu se rappelle de ces événements pour dire à Israël, depuis ces événements-là, tu n'as pas changé. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Baal Péor et de ce qui s'est passé à Gilgal? Moi, personnellement, je ne m'en rappelais plus. À Baal Péor, c'est l'histoire des Hébreux dans le désert. À Baal Péor, le fameux Balaam, qu'on connaît surtout pour son ânesse, Balaam a donné un conseil judicieux aux Madianites pour qu'ils fassent du mal aux Hébreux. Il leur a dit « Lâchez-leur des jeunes filles ». Lâcher des jeunes filles vers les Hébreux, des jeunes filles, bien sûr, qui adorent le dieu des Madianites. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont s'unir à elles et puis ils vont adopter les dieux de Madian. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et même, en fait, on a même une scène où il y a une sorte d'assemblée où c'est un peu dénoncé ce genre de choses par Moïse. Et là, il y a un mec qui arrive avec une femme et puis qui l'amène devant tout le monde et puis qui va dans sa tente avec elle devant tout le monde. Et ce qui se passe, c'est que ça finit par un massacre. Il faut arrêter cette sorte d'hémorragie idolâtre. Gilgal, c'est le lieu d'entrée dans la terre promise avec Josué. Vous savez, Josué est avec le peuple, il passe le Jourdain à pied à sec et on prend 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël et on les met au fond du Jourdain. Donc on prend des pierres du Jourdain, on les met à l'extérieur et on en remet dans le Jourdain. Et c'est censé symboliser finalement une sorte de mémorial pour l'endroit où les Hébreux sont entrés dans la terre promise. Et on pense que Gilgal est devenu un sanctuaire idolâtre, alors que normalement c'était le symbole de la fidélité de Dieu pour son peuple. Ça devient un culte idolâtre. Et donc quelles sont les conséquences de cela? Eh bien, dans la deuxième ligne du tableau, on voit que la gloire d'Éphraïm, qui est finalement symbolisé par la présence de l'Éternel, va s'envoler comme un oiseau. Et sur l'autre ligne, on voit que l'Éternel, à cause de Gilgal, les a détestés. Les conséquences de cela, c'est qu'il n'y a plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception, au verset deuxième partie du verset 11 et verset 12. Et de l'autre côté, on va dire 15c, à cause de leurs agissements mauvais, je les chasserai de ma maison. Alors, en fait, je crois que je me suis gouré dans mon... Bref, c'est pas grave. Ouais, je crois que je me suis gouré dans mon découpage, dites donc. Ah non, c'est bon. En fait, il y a une correspondance entre « je les ai détestés » et la suite « je ne continuerai pas de les aimer », entre « la gloire s'envolera comme un oiseau » et « quel malheur quand je m'éloignerai d'eux ». En fait, à chaque fois, ça se correspond, ça, ici. Et au milieu, il y a le fait qu'ils vont se faire virer. Ils vont se faire virer. Alors là, c'est les enfants qui vont se faire virer des femmes. Enfin, il y aura plus de conception. Il n'y aura plus de suite dans le mandat créationnel de se répandre. Donc le pays va se vider naturellement, faute de natalité. Et là, le pays va se vider parce que l'Éternel va chasser ce qui reste de sa maison. Enfin, dans l'avant-dernière ligne, on nous parle de Éphraïm comme une palmeraie plantée dans une oasis, et au verset 16, qui correspond donc au verset 13, Éphraïm est abattu, sa racine est desséchée. Au départ, c'était une palmeraie plantée dans une oasis, et à la fin, ça devient une racine desséchée. Et enfin, Éphraïm va faire sortir ses enfants vers le tueur. On peut traduire aussi, a fait de ses fils un gibier. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que Éphraïm se réveille un petit peu, ou en tout cas voit un dernier signe de sa déchéance? Il faudrait aux femmes des ventres qui avortent, des seins desséchés. À la fin du verset 16 et verset 17, on nous dit que ils ne porteront plus de fruits, et s'ils ont des enfants, l'Éternel les fera mourir, et que Dieu les rejettera. Ils seront des fuyards parmi les nations, ce qui correspond au fait que leurs enfants vont devenir un gibier. Donc vous voyez une correspondance, et à peu près à chaque fois le même jugement. Dieu avait mis des espoirs en Éphraïm, mais ces espoirs ont été déçus, et du coup, ça ne va pas bien se passer. Il n'y a pas les fruits escomptés. Du coup, Dieu va les rejeter. Devant le péché de son peuple, Dieu s'éloigne. Il cesse de les aimer. Et la conséquence de cela, c'est qu'il va finir par ne plus rien avoir du tout dans le pays. Dieu met fin à la pollution spirituelle de son pays. Plus de natalité, je vous l'ai dit, et expulsion de ceux qui sont déjà nés. Et aussi, ce qu'on a vu aussi dans le tableau, il va y avoir aussi un massacre de ceux qui sont déjà nés aussi. Donc là, on commence à avoir des sentences beaucoup plus précises, avec des images très très parlantes, de plus en plus trash. Là, on se dit que le premier chapitre avec un prophète qui épouse une prostituée sacrée, c'était de la rigolade. Parce que là, ça commence à devenir sanglant. La suite, chapitre 10. Deuxième comparaison d'Israël. Israël était une vigne luxuriante. Il produisait du fruit. Plus son fruit était abondant, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était beau, plus il a embelli les pierres levées. Leur cœur est partagé. Maintenant, ils vont devoir faire réparation. Il va briser leurs autels, saccager leurs pierres levées. Et maintenant, ils disent : nous n'avons pas de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous ? Il parle. Maudisse pour tromper, conclut des alliances, et le jugement bourgeonne comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Ceux qui demeurent à Samarie seront consternés au sujet des génisses de Beth-Aven. Le peuple mènera deuil sur l'idole, et ses desservants trembleront pour elle, pour sa gloire qui s'en va en exil loin d'eux. Elle sera offerte à l'Assyrie, en présent au roi Yareb. La honte saisira Éphraïm, et Israël aura honte de ses projets. Samarie est réduite au silence, son roi périt comme de l'écume sur les eaux. Les hauts lieux d'Aven, où Israël a péché, seront détruits. Les épines et les chardons croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes : couvrez-nous ! Et aux collines : tombez sur nous ! Depuis les jours de Gibéa, tu as péché, Israël. Ils en restent là, et la guerre contre les fils pervers ne les atteindrait pas à Gibéa. Je les corrigerai selon mon désir. Des peuples se rassembleront contre eux quand on les enchaînera pour leur double faute. Éphraïm est une génisse dressée qui aime fouler le grain, mais je fais plier sa belle encolure. J'attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob hercera. Vous semez pour vous la justice. Moissonnez à la mesure de la fidélité. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir sur vous la justice. Vous avez labouré la méchanceté, moissonnez l'injustice, mangez le fruit de la dissimulation. Parce que tu as mis ta confiance dans la voix, dans ta voix, dans le nombre de tes guerriers, un vacarme s'élèvera parmi ton peuple. et toutes tes forteresses seront saccagées, comme Chalman ravagea Beth-Arbel au jour de la guerre, lorsque la mer fut écrasée sur les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel à cause du mal terrible que vous avez fait. Vienne l'aurore et le roi d'Israël aura péri. J'espère que le texte rend bien compte de la vision du chaos qui va régner, la vision du jugement. Dans ce passage, il y a pas mal de choses qui se répondent, mais j'ai pas été capable, malgré quelques heures de recherche, de dégager une structure claire. Mais il y a beaucoup de choses qui se répondent. Et j'ai oublié de mettre le truc progressif dans le diapo. La première chose qu'on voit, c'est que le succès, ici, amène à l'idolâtrie. La prospérité n'a pas entraîné la louange envers Dieu, mais la prospérité a entraîné une religion païenne. C'est les premiers versets. Plus ton fruit était abondant, plus tu as multiplié les autels païens. Plus ton pays était beau, plus tu as embelli les pierres levées, qui étaient aussi un moyen de rendre un culte au Baal. C'est à se demander s'il ne vaut pas mieux être pauvre et en difficulté pour finalement s'attacher à l'Éternel. Et ça, c'est une grande thématique dans l'Ancien Testament, où l'âge d'or de la relation entre l'Éternel et son peuple, c'est le désert. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Le désert, c'était le lieu où le peuple n'avait pas les moyens de s'attacher à quelqu'un d'autre qu'à l'Éternel, puisque c'est de l'Éternel que le peuple tirait toute sa subsistance. Ensuite, on a deux éléments sur les génisses d'Israël. Je n'arrive plus à voir mon nombre de versets. Versets 5 et 6 dans un premier temps, et versets 10 et 11 dans un deuxième temps. On nous parle de génisses qui s'en vont. Dans les versets 5 et 6, ce sont les deux veaux d'or dont je vous ai parlé hier. Et vous avez peut-être remarqué que le prophète ne dit pas Bethel, d'ailleurs vous l'avez sûrement remarqué déjà les jours d'avant, mais Beth-Aven. Bethel, c'est la maison de Dieu, quand Dieu s'est révélé à Jacob. Mais puisque maintenant il y a un veau d'or à Bethel, les prophètes vont se mettre à l'appeler Beth-Aven, c'est-à-dire la maison du mal ou la maison du néant. Ce n'est plus la maison de Dieu, c'est la maison du néant. Et je vous l'ai dit, Jéroboam 1, quand il avait institué le culte de ses veaux, a dit « C'est ce Dieu-là qui nous a délivrés d'Égypte. » Et là, Osée est en train de décrire dans les versets 5 et 6 que puisque Israël va se faire envahir, l'ennemi va emporter les veaux d'or et va les amener en Assyrie. Il y a quelque chose d'ironique parce que ces veaux d'or étaient censés les protéger. Et on voit le résultat, ce sont les ennemis qui vont prendre les veaux d'or pour en profiter. Donc les génisses, c'est bien sûr un terme péjoratif, vont partir en Assyrie. Mais dans les versets 10 et 11, ce ne sont pas les mêmes génisses dont on parle. C'est Éphraïm la génisse. Tuer une génisse qui va finir par... qui aime fouler le grain, mais je vais te mettre un joug. Tu vas finir attaché et on va t'emmener en Assyrie de force. Deux sortes de génisses qui partent en Assyrie. Troisième chose qu'on voit dans ce passage, c'est qu'il y a une purification du pays qui s'opère. Les stèles vont être détruites. Et c'est pas sûr que ce soit les Assyriens qui aient fait ça. Il se pourrait bien que ce soit un roi de Juda, un siècle plus tard, qui ait fait ça. Il s'appelle Josias. À un moment dans l'histoire, ce roi Josias va effectuer une réforme religieuse dans le pays de Juda. Ils vont retrouver le Deutéronome dans le temple. parmi tout le bazar qu'il y avait dans le temple, c'est-à-dire des chevaux sacrés, des prostituées sacrées, il y avait tout ça dans le temple de Jérusalem. C'est vous dire l'état de délabrement du peuple. Et Josias va retrouver la loi et va effectuer une réforme religieuse, mais il ne va pas s'arrêter à Juda. Apparemment, la Syrie est un petit peu en perte de vitesse, donc il va en profiter pour aller jusque dans l'ancien royaume d'Israël, et il va tout péter. Casser tous les autels, tous les objets de culte païens. Il se pourrait que ce dont parle Osée va peut-être se réalisera avec Josias. Vous trouvez ça dans 2 Rois 22, si ça vous intéresse. Ensuite, vous avez l'affliction extrême du peuple qui est décrite dans notre texte. La destruction des autels, le fait qu'on emmène les veaux d'or, ça sonne la fin des illusions du peuple. Il n'y a plus d'idoles, mais en plus, on nous dit à deux reprises qu'il n'y a plus de roi. Le roi périt. Et on nous le dit, là encore, à deux reprises. À la fin, c'est au verset 15. Et sinon, c'est au verset 7. Le roi périt. Et du coup, Samarie est réduite au silence. Au début du passage, Samarie parle. Elle parle pour tromper. Et au plein milieu du passage, Samarie est réduite au silence. Et à la fin du passage, c'est un vacarme qui s'élève parmi le peuple. Mais là, on est dans un vacarme de fureur. Parce que l'ennemi est là, il emporte tout. Voyez l'évolution. Verset 4, ils parlent pour tromper. Verset 7, ils sont réduits au silence. Verset 14, ils voient leur forteresse détruite. Et donc, il y a du vacarme. Et là, le verset 8 révèle le fond de leur cœur. Ils ne crient pas au Seigneur, mais ils crient de terreur. Ô montagne, couvrez-nous. Ô colline, colline, tombez sur nous. On veut pas voir ça. On veut se cacher. C'est la politique de l'autruche. Et dans le Nouveau Testament, c'est repris, notamment dans l'Apocalypse. Les rois des nations qui voient l'agneau qui revient, qui voient la fin de la fin des temps, se disent « Oh, montagne, couvrez-nous. Colline, tombez sur nous. On ne veut pas voir ça. » C'est vraiment l'histoire de gens infidèles qui voient le jugement de Dieu arriver et qui ne savent pas quoi faire. Parce que l'option « crier à l'Éternel » n'est pas disponible. N'est pas disponible parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Mais heureusement, dans ce passage, au milieu de ce vacarme chaotique, vous avez un appel qui résonne. Le verset 12. Où le prophète appelle le peuple à réfléchir sur son échec et à revenir au Seigneur. Il faut parfois tout perdre pour avoir de l'attention et sortir de ces délires idolâtres. Semez pour la justice. Moissonnez à la mesure de la fidélité. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir pour vous la justice. Il est encore temps de se repentir et de faire appel à lui. Il est encore temps d'annuler le jugement. Mais le peuple n'a pas compris. Si on s'arrêtait là, on se dirait, franchement, Dieu est très 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 dur là. Il se transforme vraiment en Dieu vengeur, en Dieu juge. Et dans un premier temps, on pourrait se dire, il est temps parce qu'ils font un peu n'importe quoi depuis 2 siècles. Mais en même temps, on se dit, qu'est-ce qu'il fait de son alliance? Qu'est-ce qu'il fait du peuple qu'il a sorti d'Égypte? Et là, nous avons le verset 11. Un nouveau diptyque. Lisons le chapitre 11, à partir du verset 1, bien sûr. « Quand Israël était jeune, je l'aimais. D'Égypte, j'ai appelé mon fils, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux statues. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm en le soutenant par les bras. Mais ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les ai tirés avec des liens humains, avec des chaînes d'amour. J'ai été pour eux celui qui relâchait leur joug. Je leur ai présenté de quoi manger. Ils ne retourneront pas en Égypte. C'est l'Assyrien qui sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir. L'épée fondra sur leur ville, anéantira leurs alentours, elle dévorera à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à l'infidélité. On les appelle en haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment pourrais-je te traiter, Éphraïm ? Pourrais-je te livrer, Israël ? Comment pourrais-je te traiter comme Adma ? Te rendrais-je semblable à Tseboïm ? Mon cœur est bouleversé. Toute ma pitié s'émeut. Je n'agirai pas selon ma colère ardente. Je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm. Car je ne suis pas un homme, mais Dieu. En ton sein, je suis le saint. Je ne viendrai pas avec fureur. Ils suivront le Seigneur qui rugira comme un lion, car il rugira. Et les fils accourront de la mer en tremblant. Ils accourront de l'Égypte en tremblant comme un oiseau et de l'Assyrie comme une colombe. Et je les ferai habiter chez eux. Déclaration du Seigneur. Jusqu'ici notre lecture. Nous voyons dans ce diptyque qu'il y a à chaque fois trois parties. Dans la première partie, nous avons une sorte d'état des lieux absolument dramatique, avec Dieu qui appelle à chaque fois son peuple. Dans la première partie, Dieu avait appelé son peuple à sortir hors d'Égypte, à sortir d'Égypte donc, et ils sont sortis d'Égypte, mais ils se sont éloignés. Dans la deuxième partie du diptyque, au verset 7, on les appelle à revenir à l'Éternel, mais aucun d'eux ne se lève. La communication est rompue, ils ne répondent pas à l'appel. Deuxième partie du diptyque. Merci. L'Éternel a été pour eux celui qui prenait soin d'eux, qui les entourait avec des liens d'amour. Et d'ailleurs, ces versets 3 et 4 rappellent beaucoup le passage d'avant où l'Éternel met un joug sur eux et les attache pour les amener en Assyrie. Ou c'est pas l'Éternel d'ailleurs, c'est les Assyriens qui les attachent pour les emmener en esclavage. Et ça rappelle, ce verset 3 et 4 rappelle beaucoup cela, mais en version positive. L'Éternel, quand il les a sortis d'Égypte, il a pris soin d'eux. Il a eu un comportement de père à leur encontre. Vraiment, on a vraiment l'image d'un père qui donne à son enfant de quoi manger, qui prend soin de lui. Et de l'autre côté du diptyque, au verset 8 et 9, on a l'image d'un père qui en lui-même n'a pas envie de corriger son fils, n'a pas envie de émettre son jugement. On a Dieu qui entre à l'intérieur de lui, c'est comme si on assistait à ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Bien sûr, il est obligé de châtier son enfant qui fait n'importe quoi. Mais en même temps, il en souffre énormément parce qu'il ne veut pas ça. C'est un père qui aime son enfant, même si son enfant ne l'aime plus. Et on voit qu'il ne veut pas agir avec fureur. Et quand il dit « Pourrais-je te traiter comme Adma, te rendrais-je semblable à Tseboïm ?» Adma et Tseboïm sont deux villes qui étaient à côté de Sodome et Gomorre. Des villes qui ont connu le jugement, la destruction. Et Dieu dit à Israël, je veux pas te détruire comme j'ai détruit ces deux villes, parce que tu es mon enfant et parce que je t'aime. Et du coup, nous arrivons au bas du diptyque, dans les versets 5 et 6. On nous dit qu'il va y avoir un jugement. Ils retourneront en Égypte parce qu'ils ont refusé de revenir. Il va y avoir une sorte de jugement. Ils vont aller ailleurs, en Égypte, en Assyrie. Et ça fait écho à la dernière partie, au verset 10 et 11, où ils reviendront d'Égypte, ils accourent d'Égypte. Et finalement, en fait, à gauche, vous avez un jugement qui s'opère, mais à droite, on voit que le jugement n'est pas entier. Il va y avoir un retour, dans un deuxième temps. N'empêche que, on voit l'ingratitude systématique du fils envers son père. Et vraiment, il faut avoir peut-être été père pour comprendre ce genre de choses, ou avoir été mère aussi. C'est que quand on s'investit dans l'éducation et dans le soin prodigué à des enfants, on le fait par pur amour pour eux, parce qu'on les a voulus, parce qu'on les aime. Et il faut comprendre le temps que ça prend, l'énergie que ça prend, les heures de sommeil que ça prend. À quel point ça prend énormément de temps dans les premières années de vie de prendre soin d'un bébé, de faire en sorte que le bébé grandisse, de l'éduquer, de s'occuper de lui. Et quand c'est comme ça, quand on s'occupe d'un enfant, eh bien, moi en tout cas, c'est les pensées des fois qui me sont traversées en me disant, franchement, à l'adolescence, si elle me saoule, je lui rappellerai ces moments là où je me suis réveillé plusieurs nuits, plusieurs fois par nuit, tous les jours, pendant un an et demi, pour la bercer, où j'ai pris soin d'elle. Et en fait, on le fait vraiment gratuitement et on pense pas justement qu'un jour elle pourrait faire n'importe quoi, elle pourrait nous dire non mais de toute façon moi j'ai pas demandé à naître, de toute façon moi je veux mon indépendance, de toute façon vous êtes nuls. On se dit pas ça, mais n'empêche que il y a une tristesse, j'imagine, de la part du Seigneur, mais comme de la part de parents qui voient leurs enfants qui font absolument n'importe quoi, alors que leurs parents, bien sûr imparfaitement, mais ont essayé de prendre soin d'eux absolument. Et à ce moment-là, par leur choix mauvais, c'est un peu comme si leurs enfants les reniaient. Et là, il faut imaginer la douleur de se rappeler des jours d'avant où c'était génial, où on avait investi, finalement, pour l'éducation des enfants, et de constater l'ingratitude systématique du fils. Il faut imaginer la douleur du père. Oh, pardon, j'avais déjà tout mis. Mais c'est bien sûr contrebalancé avec l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu, ici, choisit d'aimer son peuple. Et il continue de le faire malgré son infidélité. Il choisit de l'aimer, en sachant très bien qu'il va lui désobéir. Les parents ne savent pas, quand ils prennent soin de leurs enfants en bas âge, si leurs enfants vont les trahir. L'Éternel a sorti les Hébreux d'Égypte, a donné sa loi, a fait une alliance, en sachant pertinemment qu'il allait être trahi par eux. Mais il a choisi de les aimer. Ce n'était pas un investissement, ou c'est plutôt un investissement à pure perte que l'Éternel a effectué. Et là, on peut se dire, la sanction est sévère. Et c'est vrai qu'elle l'est. Et des fois, il faut châtier quelqu'un qui fait n'importe quoi. Mais il faut rappeler qu'il ne veut pas faire comme Sodome et Gomorre, et il ne fera pas comme Sodome et Gomorre. Il ne les détruira pas. Ils vont partir en exil. Ils ne vont pas mourir. Et un jour, ils reviendront. Et je pense que ce passage parle de l'aveuglement spirituel. De junkies accro au péché, accro à l'idolâtrie. Je connais un père qui est pasteur d'ailleurs, qui a dû inlassablement aller chercher sa fille dans des squats pour droguer, sa fille qui fuguait régulièrement. Quelle douleur de voir la déchéance de son enfant et de rien pouvoir faire, de juste essayer de alléger la souffrance, de modérer les conséquences de son péché. Et quelle douleur de voir quelqu'un qu'on aime choisir de se perdre et de sombrer. Et là, en fait, il faut soigner le mal sans tuer le patient, pour reprendre l'anecdote, enfin la métaphore médicale du virus d'hier. Il faut sanctionner. Il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Et parfois, il faut faire des choses un petit peu musclées pour que quelqu'un qui va sombrer s'arrête de sombrer. Il faut parfois l'attacher virtuellement, mais en tout cas, le contraindre à arrêter ses bêtises. Il faut parfois couper les relations avec lui. Mais bien sûr, le but n'est pas de le tuer, de lui faire mal. Le but, c'est de le faire revenir. L'application qui me paraît assez géniale de ce passage, et surtout du chapitre 11, c'est que l'Église, tout comme elle doit faire comme Dieu qui a choisi d'aimer son peuple infidèle, l'Église, c'est le lieu où on a choisi d'aimer les frères et sœurs, malgré ce qu'ils sont, malgré les différences, malgré le fait qu'ils peuvent être un petit peu insupportables. On choisit de les aimer parce que Dieu les a mis dans notre assemblée. Et donc, malgré tout ce qu'ils font, il faut choisir de les aimer. On ne les aime pas pour ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils nous apportent, mais on les aime parce que Jésus les aime. Et il n'y a pas le choix. On choisit d'aimer. Et ça, c'est super important. On l'a dit d'ailleurs dans l'atelier sur mariage et célibat. L'amour est un choix. Et si l'amour est un choix, on est à l'abri de la perte de désir, du temps qui passe, qui fait qu'en fait les relations peuvent finir par s'étioler. On choisit d'aimer, et donc ça dure. On construit, on consolide, on répare. Parce que l'option de la rupture n'existe pas. Avant-dernière application, c'est l'appel qui est lancé au chapitre 10. Il est temps de se tourner vers l'Éternel. Si plusieurs d'entre nous sommes éloignés de lui, si par nos actes, nos pensées, nous commençons peut-être à sombrer, ou en tout cas à nous éloigner de lui, à le trahir, à nous comporter comme des enfants des ténèbres et plus comme des enfants de lumière, cet appel est pour nous. Il est temps de se tourner vers lui, il est temps de revenir à lui et de lui dire « Pardonne-nous, pardonne-moi, je me suis éloigné, j'ai glissé. J'ai dérapé petit à petit et j'ai vraiment besoin de ta grâce, j'ai vraiment besoin de revenir à toi, je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi. » Et ça arrive à tous les chrétiens dans certains stades de leur existence. Et souvent d'ailleurs, quand il y a du succès, hein, c'est Mike Evans, hein, je crois, qui nous avait dit ça à une rencontre nationale l'année dernière, que c'est souvent en fait quand on a du succès qu'on dérape. Et qu'on commence à se prendre pour quelqu'un d'important, pour quelqu'un qui peut se passer de l'Éternel. Et on commence à faire un petit peu n'importe quoi, à faire du mal aux autres, à les écraser, parce qu'on se sent bien, Et donc, ça peut vraiment arriver à tous les stades d'être dans une période comme ça de trouble. Et là, l'appel d'oser est toujours présent. Il est temps de se défricher un champ nouveau pour récolter la justice. Et enfin, finissons par la fin des temps. Comme je vous l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, montagne, recouvrez-nous. Colline, fondez sur nous. C'est le cri des rois, le cri de ceux qui ont reçu la marque de la bête, qui adorent la bête, qui ne veulent pas se tourner vers le Seigneur Jésus, vers l'agneau. C'est le cri de ceux qui vont se rendre compte qu'ils ont eu tout faux dans leur vie, qui ont eu tort de ne pas se tourner vers celui qui pourrait les sauver. Rappelons-nous de ce verset. Et je pense qu'on doit vraiment intercéder pour nos proches qui pourraient connaître la ruine s'ils ne se tournent pas vers Jésus. Je pense que tout à l'heure, Manu a parlé des réunions internes au GBU. Dans ces réunions internes, bien sûr, on parle, on s'édifie, mais on prie aussi. Et je pense que c'est très très important pendant ces réunions internes de parler ensemble, entre GBUciens, de nos amis non chrétiens, de les présenter aux autres, et de dire un peu nos difficultés ou nos opportunités de leur présenter l'Évangile. Et surtout de prier pour eux, de prier pour que Dieu nous donne les occasions à nous de leur parler de notre foi, de notre espérance. Pour qu'ils ne soient pas dans cette position-là. Pour qu'à la fin des temps, quand ils voient Jésus qui revient, eh bien, ils fassent comme nous. Ils plient le genou, mais en se disant « Enfin, enfin, nous allons le voir, celui que nous aimons sans l'avoir encore vu. Enfin, nous allons connaître la félicité éternelle avec un corps ressuscité, sans péché. Enfin, nous allons pouvoir jouir de relations merveilleuses, transformées entre nous. On espère qu'ils vont connaître ça, et pas ce réflexe de fureur, de se cacher, en se disant « Ah, les chrétiens avaient raison. Ils avaient raison, et j'avais tort. » Ou encore pire, « Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. » Ah, j'aurais bien voulu que mes amis chrétiens soient un peu plus insistants quand ils m'ont prévenu. J'aurais bien voulu que quand je leur ai dit « Je m'en fous de ta Bible », eh bien, ils m'aient dit « Non, mais t'as pas compris. Tu vas mourir si tu continues comme ça. » Je pense que ça doit nous inciter à être un peu plus insistants. Même si, bien sûr, on a peur d'être lourd, mais je pense qu'on devrait quand même avoir un peu plus conscience, et moi en premier, que ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas le Seigneur sont morts, sont déjà morts. Alors, rappelons-nous que nous avons un Père qui ne veut pas la mort du pécheur. Et qui veut restaurer toute personne qui se tourne vers lui, et qui est lent à la colère, qui est patient, qui attend qu'on revienne à lui. Alors prions-le pour qu'il agisse.